Bon, ok, aujourd'hui gros programme les gars. Thomas, tu nous fais toujours ta critique ciné?
Yes.
Ok, Arthur, les jeux vidéo toujours?
Il y a toujours.
Ok, très bien. Et toi Erwan, tu nous as préparé un truc ou pas?
Verlaine dans l'interminable.
Attends, sérieux?
Bah bien sûr.
Ouais, bof, vite fait quoi. Je suis pas hyper chaud, je suis pas sûr. C'est pas hyper enjoué quoi. C'est culturel si tu veux, mais ça reste assez de... Non.
Dans l'interminable ennui de la plaine, la neige incertaine luit comme du sable. Le ciel est de cuivre, sans lueur aucune, on croirait voir vivre et mourir la lune. Comme des nuées.
Mais tout à fait. OK. Non, merci. Tais-toi. Je vais te couper le micro pour cette émission. Tu m'as saoulé.
Sympa.
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Bonjour et bonsoir à tous, bienvenue dans Culture Ims, le podcast qui vous parle de culture. Avec un gros cul, je suis Florent et je suis très très content de vous retrouver après 2 semaines d'absence. Je suis ce soir avec Thomas.
Bonsoir.
Bonsoir Thomas. Bonsoir. Je suis aussi avec Arthur.
Bonsoir à tous. Biographe officiel de Michel Vendetta.
Bah du coup t'as écrit une BD.
Il n'y a que 2 pages.
C'est un flyer.
Exactement. On dirait du pimps.
Et je suis aussi ce soir avec Erwan.
Hello mes petites tartelettes.
Ah, j'avais oublié ça aussi. Du coup, c'est la 3e émission de Culture Ims déjà.
Ça
comme
passe
le
à
temps
une
passe
vitesse.
Vis,
à une vitesse.
Comme le temps passe vite.
Que le temps passe vite.
Excusez-moi pour cette petite blague.
Merci. Donc, bienvenue sur Patrick Sébastien FM. Non, du coup, avant de commencer cette émission, on voulait remercier tous ceux qui nous ont écoutés. Il y a déjà 2 émissions qui sont sorties et les retours sont juste mais énormes. On pensait pas avoir autant de retours, avoir autant d'écoutes. D'ailleurs, si j'en parle aussi, c'est parce que Thomas voulait faire le point avec quelqu'un sur un retour qu'il
oui,
a
non,
eu.
Oui, non, c'est
crois.
Ça. Moi, je suis vraiment ravi, comme nous tous, de tous les retours qu'on a eus. Mais par contre, moi, il y en a un que je voulais partager avec vous parce qu'il m'a un peu surpris. La personne m'a demandé, c'était vraiment bien votre podcast et tout, mais pourquoi vous l'avez fait en français? Alors voilà, je suis comme vous, je suis resté bouche bée.
Mais la personne est française elle-même.
Ah oui.
Après, d'accord. On peut le faire en grec hein.
Non mais en breton, on fait une petite émission spéciale breton.
Non, on va pas le faire en grec parce que je connais que le mot anus et du coup ça risque d'être compliqué.
Non, Mykonos, Aliagas, plein de trucs hein. Tzatziki.
On fera peut-être une émission spéciale, écoutez. Mais en tout cas, c'était le retour que je voulais partager parce que moi, il m'a un peu surpris. Pourquoi vous l'avez fait en français?
C'est pertinent.
Bah parce que c'est notre langue maternelle, écoute.
Bah, oui, c'est ça. Mais en tout cas, merci pour tous vos retours et n'hésitez pas justement à nous en donner d'autres.
Ah oui, n'hésitez
avec
pas.
Avec grand plaisir.
Ouais, des critiques constructives et tout, on est preneur. On vous écoutera certainement pas, mais ça vous permet de vous exprimer. Vous vous sentez libre dans un pays démocratique et ça vous fait plaisir. Et on en a rien à foutre.
Si, on va peut-être les écouter un petit peu.
Non, je rigole, bien sûr que non.
Un petit peu, c'est un peu notre public, donc c'est ce qu'ils attendent.
Évidemment.
Ils attendent de la qualité, tout simplement. Hein, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de qualité, on va commencer tout de suite.
Ah, c'est donc moi qui commence, a priori.
Mais non, pas du tout. C'est Arthur qui commence. Je te lance ton jingle et c'est à toi. Yes, j'ai battu mon score à Tetris. Du coup, Arthur, ta chronique jeux vidéo, vas-y.
Eh ben, je vais vous parler de l'Atari 2600, la console. Pour être plus sérieux, je vais vous parler de l'histoire de la PlayStation première du nom, faite par Sony. Un peu d'enthousiasme. Je préfère. Bon, donc si vous avez des questions, bien sûr, vous les posez, j'y répondrai pas. Oui. Hein.
J'ai une question. Est-ce que c'est bientôt fini ta chronique?
Il reste encore 2 heures.
Oh, okay, bon.
Très bien. Il y a 27 points avec 5 parties.
Petit 1. Donc on va commencer par. Je vais pas vous décrire par contre qui est Sony. Hein. Je
pense que c'est. Parce que ce n'est pas Harry une personne
qui court vite, il me semble.
Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la PlayStation, de la conception et les origines de la première PlayStation.
Ils ont baisé, c'est tout, putain, la conception.
Ça, c'est un peu lourd.
Désolé.
Peu lourd.
Ah, Peggy 18. Donc pour commencer d'abord, PlayStation, ce n'était pas un constructeur de jeux vidéo. Ils ne faisaient même pas du tout de jeux. C'est Nintendo qui est venu les voir pour leur demander un accessoire. Est-ce que vous savez lequel que c'était ?
La manette.
Le plug anal.
La mer noire. Non. C'est
la manette.
À l'époque, il y avait des cartouches.
La manette.
Ça fait trop lourd. Non, plus c'était un lecteur CD pour accompagner la Super NES de la Nintendo.
Pigre.
Parce qu'à l'époque, la Nintendo portait des cartouches.
Classique.
Et que l'avenir allait être les lecteurs CD. Donc ils ont appelé Sony pour leur faire un lecteur CD. Et parce que c'est le business, ils ont fait appel à un autre constructeur. Le constructeur Philippe.
Je sais où tu te caches.
Voilà, le constructeur Philips. Et dans leur dos, Nintendo a choisi Philips, mais vraiment dans leur dos sans annoncer à Sony.
Salope.
Puis ils allaient prendre Philips pour leur lecteur CD. Ah oui, donc c'est à l'E3 93, je crois, où Sony est vraiment tombé des nues, où ils ont appris par bouche des journalistes qu'ils n'étaient pas le constructeur du lecteur CD de la Super Nintendo.
C'était à l'E3 2015, donc 20 ans après.
C'est la merde.
Donc, par pure vengeance, entre guillemets, Sony a décidé de se lancer dans les consoles de jeux. Et c'est là où est née la première. En
ils ont bien fait, tu me diras.
Oh, ça n'a pas tant marché que ça. Moi, je...
Ouais, ouais, ça a surtout bien marché dans le Nord. Non.
je l'ai pas la ref.
Non, voilà. En fait, le principal foyer de la PlayStation, c'est le Japon et l'Europe.
D'accord.
Ouais, c'est pour ça, le Nord, hémisphère Nord, voilà.
Ah, ok.
Ouh. Donc, c'est en 91 que les premiers prototypes ont été designés. Petit 2. Donc, la construction de la première PlayStation a été l'œuvre d'une seule personne. Il a été très persévérant, c'est Ken Kutaragi. En français, Ken Kutaragi. Hein. Excusez-moi pour mon accent japonais.
Non, bah tu vas garder l'accent japonais parce qu'en français...
Oui, excusez-moi. Donc c'est lui qui est allé voir les dirigeants de la société de Sony pour leur dire qu'il faut aller dans ce segment-là, c'est l'avenir. Grâce au lecteur CD qu'ils ont pu faire pour la Super NES, il faut l'exploiter au maximum. Et grâce à sa détermination, la première PlayStation est sortie en 94 pardon, au Japon et 95 en Europe.
Attends, je pensais que c'était après, moi je pensais que c'était 97, un truc comme ça, 98. Enfin, personnellement, non. Je suis né dans cette
époque-là. Elle a duré longtemps, je pense qu'elle a duré assez longtemps pour le coup.
Parce qu'en 2001, la PlayStation 2 est sortie. Donc voilà, après, elle a duré quelques années ensuite, style 2005, par là. Même, je crois, même, non, 2007. Vraiment, le cycle de la PlayStation.
C'est absolument pas travaillé cette chronique, je suis désolé. Alors attendez.
Le gars se contredit lui-même.
Alors d'après Wikipédia, Wikipédia me dit qu'a priori.
Donc voilà, jusqu'en 2007. Est-ce que vous avez le nombre de consoles vendues dans le monde entier?
En 14, je dirais.
Allez, juste prix, messieurs.
C'est en millions. Vous aider.
Ah, en millions.
14 millions.
37 millions.
C'est plus.
500.
Oh, 500 millions. 500 millions, ça fait beaucoup. Un demi-milliard, ça fait quand même beaucoup.
250 millions.
Non, c'est moi.
100 millions.
Un peu plus.
Oh, truc.
Bon, bah,
120. Moins.
Bon, 107. C'est interminable cette histoire.
Voilà, c'est ça, c'était le jeu de culturisme.
Voilà, j'espère c'est que vous avez aimé. On se retrouve dans deux semaines, merci.
Non, 104,250,000 consoles vendues dans le monde. C'est la cinquième console la plus vendue.
Je l'avais dit,
non ? Non, je l'avais pas dit tout. T'avais dit 100 millions. Donc, c'est la cinquième console la plus vendue de tous les temps. Bientôt, la PlayStation 4 va la rattraper, va même la dépasser. Donc.
C'est quoi la première tu sais ce que c'est la première console la plus vendue ou pas?
Comme ça, la PlayStation 2. Voilà.
Et ben voilà.
La on se couchera en merci.
Super.
Suivi par la DS de Nintendo.
Oh, énorme. Nintendogs, grosse dédicace.
Bah, en même temps, c'est pas hyper cher la DS par rapport à toutes ces consoles.
Oui, mais c'est pas une console de salon, c'est une console
portable. Je suis désolé. Bien sûr. Je suis désolé, il y avait pas Alexandra Lederman sur PlayStation.
Et il y avait pas Pokémon non plus.
C'est ça, vrai. C'est vrai. Aussi. Ouais, mais il y avait Crash Bandicoot sur PlayStation.
Oui.
Et Spyro.
Et Spyro.
Et le jeu le plus vendu de la PlayStation, c'est Gran Turismo. Avec, bon, maintenant ça paraît peu, mais 10 millions à l'époque, c'était juste hallucinant. Pour une nouvelle série, hein, Gran Turismo, premier du nom, 10 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est le jeu porte-étendard de la première PlayStation, entre autres.
Moi, c'est mon plus grand drame que ce jeu soit toujours resté que sur PlayStation. Je trouve que c'est le meilleur jeu de voiture qui existe, Gran Turismo.
C'est clair.
Tous les numéros, et ça a toujours été. Moi qui ai souvent été principalement sur Xbox, le fait que de ne pas pouvoir accéder à Gran Turismo, C'est un de mes plus grands.
Oh, t'avais quand même Colin McRae Rally qui était bien.
T'avais Sega Rally. Et ouais.
Non, moi j'avais même le petit volant et tout sur PlayStation 2 pour jouer à Grand Theft Auto.
Oui,
ah oui. Ah oui,
non, c'était super avec les pédales et tout là. Ouais, tac, c'était vraiment le feu.
Il y avait une multitude d'accessoires vendus. Et oui. En 1984, ça se disait.
Mais on c'était le siècle dernier, attention.
2018, désolé.
Maintenant,
2019.
Petit 3, la manette. Donc.
Bah c'est bon, c'est ce qu'il a dit Thomas tout à l'heure.
Ah, donc j'ai gagné.
Donc on va parler de la manette. À l'époque, elle n'avait pas de nom, la toute première sortie.
Bah la manette.
La manette, voilà.
D'accord.
Non. Après, c'est devenu la DualShock, vous savez pourquoi?
Parce qu'il y avait deux joysticks qui s'opposent.
Exactement.
Parce qu'elle vibrait.
Voilà. L'ajout des deux joysticks. Donc ces deux joysticks, il va voir double moteur Celoni. Oula. Solénoïde.
Alors là, faut savoir que Arthur a du mal à lire. Pourtant, sur ses notes, c'est écrit en 28, hein, à préciser. J'ai jamais vu des notes écrites en aussi gros.
Non, mais les gars, c'est parce que en fait, il a la cataracte. C'est pour ça, c'est
ah, pardon.
Ah, c'est vrai. À son âge.
Non, mais au Scrap, tu voulais placer un mot. Solénoïde. Voilà.
Putain, merci.
36 points en lettres comprimées. Donc voilà, c'est la manette phare de PlayStation, la DualShock. Donc, première version sans joystick. Deuxième version courant 98. Printemps 98 en Europe même, les doubles joysticks qui arrivent, et ça a été révolutionnaire, notamment pour la sortie de Gran Turismo.
Ah
oui.
Petit 4.
Le gars fait une disserte.
C'est insupportable.
Et là on est tous en train de prier qu'il n'y ait pas de 18 points.
Bah, 12 sur 20 écoute.
Donc bah, je vais vous parler des symboles de la manette justement DualShock. À quoi sert le triangle à votre avis, à la base?
Alors, à contrer dans NBA 2K.
Oh,
banque. Non.
Ah, le triangle, symbole, voilà, triangle.
Le triangle, symbole pour la marque PlayStation, c'était de.
Avancer.
Non.
D'aller vers le haut.
Fléché. C'est non. Les Illuminati.
Presque.
Avoir des chips.
C'était pour contrôler la caméra à l'époque parce que bah.
Aïe.
C'était les débuts de la 3D et malheureusement, c'était les balbutiements du contrôle de la caméra. Donc on utilisait triangle généralement pour viser.
Mais quel rapport entre le
triangle et la caméra en fait?
Je t'en pose des questions.
Doucement. Okay. Doucement sur les questions.
Voilà, pour eux, le triangle servait à viser avec les flèches directionnelles. Et après les joysticks, on pouvait bouger la caméra, etc.
L'autre jour, je me suis fait un kiff. J'ai rejoué que avec des flèches. C'est impossible. Hein. Juste conduire une voiture.
Ça s'appelle tirer à l'arc.
Non, mais juste.
Mais notamment pour les mélodophoneurs, à l'époque il n'y avait pas de joystick quand il est sorti le premier.
On sort que des beaux que personne ne le connaît.
Oh si, mélodophoneurs.
Mélodophoneurs, c'était le meilleur jeu.
Ok, c'était prononcé un peu vite, je suis désolé.
Au-dessus de Battlefield et Call of Duty.
Pardon, mélodophoneurs,
c'était mille fois mieux. Mais
inspiré du film Soldat Ryan. Ouais. Ça va.
D'accord.
Même okay. Linkin Park qui fait les BO d'un jeu de mélodophoneurs et tout.
Ouais.
Castle of Glass pour les intimes.
Ensuite, l'autre symbole, c'est le carré. Et à votre avis, ça vous fait penser à quoi? Alors, c'est totalement.
Une caméra.
Non. Alors pour nous, carré. C'est idiot. Mais pour le Japon, c'est il y a une
au sushi.
Une symbolique.
C'est une lettre, non?
Presque.
Ah.
Enfin une lettre. Non.
Ouais. Un kanji. Un kanji.
Ça symbolise la feuille de papier. Pourquoi?
Ah oui, ok. Donc ça n'a aucun rapport avec la lettre en fait.
La lettre. Ouais, pour moi, j'avais en tête la lettre.
Ah, okay. Lettre. Oh,
oui,
joli.
Oui, bah, c'est ce que je voulais dire.
Oui, exactement. Ça représentait les menus, les documents pour accéder dans les jeux.
D'accord.
On appuie sur carré pour aller dans les menus, par exemple l'inventaire, etc.
C'était pas Start à l'époque?
Non. Non, Start, c'était pour la pause, tout simplement.
Ah, habile. Oh, ils sont forts, ces Japonais, quand même.
Et ouais, ils pensent à tout. Et enfin, le rond et la croix, pourquoi?
Pour oui et non.
Exactement. Oui
oh
et non.
Là 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 là.
Si vous voulez faire un design de manette, par exemple, vous pouvez m'appeler. Je laisserai mon numéro sur le site officiel.
Donc voilà, c'était principalement les grandes informations de la première PlayStation.
Et bah.
Maintenant la PlayStation 2.
Petit 4. Non bah pour terminer cette chronique, j'ai quelques anecdotes à picorer.
Ah
oh.
Ah
voilà.
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
C'était vraiment très intéressant.
Donc pourquoi les CD sont noirs de la première PlayStation?
Pour avoir le dessus et le dessous?
Non, le dessous des CD était noir. Pourquoi? C'est la seule console qui a eu les CD noirs.
Oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Putain, mais on n'est pas aux grosses têtes, donne-nous la réponse.
Une question de madame.
Alors, pour madame Pichon de...
Non, tout simplement, c'est à l'époque pour lutter contre le piratage. Ça a marché.
La réponse, c'est faux.
Et la deuxième version aussi, c'est que Sony était les seuls à pouvoir faire des CD noirs, et c'était pour se différencier des autres marques, style JVC, etc. Donc c'était une marque de fabrique de Sony.
Mais au fond, c'était tout aussi rayable. Enfin, je veux dire,
oui,
l'intérêt était quand même assez limité pour le
CD. C'était juste la couleur en
fait. C'est ça.
Wow, il est noir.
Ça claquait par rapport aux autres CD où c'était un peu, ça brillait, t'avais les couleurs arc-en-ciel qui te revenaient en pleine face. Là, t'avais
mais
un CD noir.
Mais, ah oui, mais cela était ceci était
pour les oiseaux.
J'allais le dire justement. Mais...
Parce que moi, j'ai un voisin qui a voulu mettre que des CD noirs. Final, potager foutu.
Au final, les CD de Dem Pokora marchent mieux dans un jardin.
Et enfin, pour terminer, une autre anecdote, les logos aussi ont une signification. Le rouge du carré, ça signifie l'éclat. Le jaune, la passion. Le vert, la joie.
Le jaune ?
Il n'y a pas de jaune.
Il n'y a pas de jaune. Pourquoi pas du tout. Ouais.
Le bleu.
Ah non, non, pardon.
Le pourpre.
Alors, c'est pas par rapport à la manette, c'est par rapport au logo de la PlayStation.
Ah, ah
d'accord, oui, là, c'est bon.
Oui, moi aussi, okay. Tu m'as foutu doute.
N'hésitez pas à noter cette chronique sur les réseaux sociaux.
Voilà, sur le logo PlayStation, il y a quatre couleurs. Okay. Le rouge, le jaune, le vert et le bleu. Donc le rouge, ça représente l'éclat. Le jaune, la passion. Le vert, la joie. Et le bleu, le charme. L'élégance.
Ils sont quand même fait chier ces Japonais, bordel.
Ouais, mais c'est tellement magnifique.
Oui, c'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Et... il y avait le petit logo qui apparaissait, là, qui se dessinait.
Et ce son, quand tu mettais le CD,
voilà.
C'est orgasmique.
C'était surtout le son libérateur qui disait « Oh putain, le jeu, il s'est lancé, les gars.
Il marche, rayé, il est pas trop rayé. »
C'est ça. Eh bien...
Est-ce que vous avez des questions, des choses à...
Non, une petite remarque. Ce qui est fou, c'est que tu as dit que la couleur bleue, c'était pour pas le charisme... La beauté,
le charme, l'élégance.
Le charme, l'élégance. Et ce qui est assez dingue en studio, c'est que c'est Arthur qui a le micro bleu. Voilà, je tenais quand même à le signaler.
C'est incroyable.
Je trouve ça assez exceptionnel.
Car je suis l'élégance, le rayon.
Bah, du coup, je trouve ça un peu paradoxal. Moi,
C'est un oxymore, ouais. Mais visuel.
Merci bien. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire
Non, moi je vais en finir. Moi, je vais en finir.
Non, non, tu poses ce fusil, s'il te plaît, Thomas. Tu poses cette corde aussi.
La Jaguar.
Non, on viendra à la Jaguar après. Hein, je peux en parler. J'ai eu Bubsy, tout ça. Je peux. On passe tout de suite au billet d'humeur.
Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà. Et pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin.
Et c'est le billet d'humeur. On va commencer tout de suite avec Erwan. Parce que je lui ai rallumé le micro, je suis pas un bâtard quand même.
Quel gentillesse. Alors, pour mon billet d'humeur, c'est très simple. Eh bien, je vais vous lire la suite. Des forêts prochaines...
Non, c'est pas possible.
Bon, non. D'accord. Non, sinon, j'ai un vrai truc dont je voulais vous parler un petit peu, vous faire part.
Nakamura.
Le retour... je voulais vous parler d'une des news les plus croustillantes depuis quelques temps. C'est ce qu'on appelle Orly 2.0.
La baston.
La baston.
Octogone. Octogone.
Alors, c'est bien sûr le clash entre Booba et Caris, entre le duc de Boulogne et Dozo le Sevran, entre Bédozo et K2A, entre Saddam Hotsen et K double Rotor. Attention, ça ne rigole plus. Non, non, vraiment. Ouais, ou alors c'est vraiment juste la petite bagarre entre Eli et Oku. Voilà, c'est leur vrai prénom, Sangoku, ouais, c'est lui. Mais en beaucoup moins stylé quand même. Et ouais, du coup, leur petit prénom, c'est vrai qu'on comprend mieux pourquoi il y en a un qui s'appelait K double Rotor.
Ouais, non, en fait, les rappeurs, faudrait pas connaître leur prénom.
Non,
c'est comme Joey Star, tu t'appelles comment?
Didier.
Ah merde, salut.
Et du coup, pour un petit rappel des faits, les rappeurs ils sont rivaux depuis la nuit des temps. Ils avaient fait quelques feats ensemble à l'époque, mais depuis ils se clashent H24 sur les réseaux. Et Booba il avait dit pour enterrer la hache de guerre, et je provoque Caris en duel. Et un duel dont les règles sont très simples, c'est juste de la MMA, donc beaucoup de violence.
Des assurances alors surtout...
Moi, je peux te proposer un taux vraiment pas dégueulasse.
Avant tout, les assurances vie, c'est vrai, c'est très efficace. Mais surtout, un max de buzz. Et pour ce qui est de l'orga, c'est assez impressionnant. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Si, oui.
Alors, non, parce que je pense pas que vous connaissiez tous les orgas.
Bon, j'ai le producteur en tête.
Alors,
c'est ça qui fait peur.
Ah ouais, le producteur.
Alors, on a le premier, Cyril Hanouna.
Et je crois même qu'il a dit qu'il voulait arbitrer.
Non, j'arrive, j'y viens.
Il voulait mettre des nouilles dans le slip des gars.
Vous voulez faire mon billet d'humeur ou je peux le finir tout seul?
Non, mais moi je disais qu'il voulait mettre des nouilles dans le slip des gars.
Eh bah non, mais presque. Vous verrez après. Bon. Alors on a Cyril Hanouna qui voulait organiser le combat. Donc s'en mettre plein les poches en passant, quoi. Et vendent les tickets.
Ah,
il y a Ibra TV, le célèbre post-blow, qui voulait arbitrer le match, parce que lui, il a déjà arbitré beaucoup d'accord, de combats okay. et tout sur YouTube. Et alors, plus spectaculaire encore, on avait Lorenzo Lolo, le rappeur. Lui, il voulait être commentateur, il a même posté une vidéo sur Instagram où il faisait un commentaire complètement. Il faisait un commentaire voilà, complètement fictif là-dessus, très drôle. Et enfin, le meilleur pour la fin, spécial guest, c'était Jackie et Michel qui se sont proposés sur Twitter pour filmer le combat. On n'a pas de retour pour l'instant.
En plan séquence. Voilà.
J'imagine Caresse qui se prend une grosse droite et qui dit « Hey, merci Jackie et Michel !»
Alors, je sais pas si t'allais en parler, ouais. mais tu parlais de Cyril Hanouna. Alors ouais. visiblement, moi, de ce que j'ai lu, c'est toutes les recettes iront à des assos et tout.
Ah, c'est pas ça.
Mais Cyril Hanouna, il est allé encore plus loin, le mec. Il ouais. a dit que pendant ce combat, s'il y avait genre Alain Chabat, Yann Barthès et un autre mec qui voulait se battre contre lui, il n'y avait pas de souci. Le Guirec, c'est con aussi dans l'octogone. 2019, c'est l'année des octogones. Quoi.
C'est assez. Mais ils sont complètement pétés, les gens. 2019, 2018, 2019, là, c'est dingue. Et du coup, et bah, là, je n'ai plus une question pour vous. En fait, j'en ai deux. J'en ai marqué deux. Donc, je vais plutôt dire les deux. Voilà. Je vais m'arrêter à la première, ça serait con. Ah, il y en a trois.
Non, mais c'est ça, bosse ta chronique maintenant, c'est bien.
Alors, qu'adviendra-t-il de ce combat qui se promet d'être orgasmique, enfin, selon les dires du caméraman officiel.
Est-ce que ça sera diffusé sur Rire et Chanson?
Ah, c'est possible. Avec ma chronique, vu la teneur en humour que j'ai mise. Et voilà. Et qui est-ce que vous pensez qui sera le vainqueur? Ma phrase n'était pas du tout française, mais elle venait du fond du cœur.
La culture française.
Alors, Booba ou Caris, les gars?
Les parfumeries, direct.
Les parfumeries Orly.
Ouais. Alors moi sur le coup c'est marrant parce que étant donné que j'en ai strictement rien à faire.
Bah, je sais pas, moi j'arrive.
Écoutez, je pense que physiquement le gars n'est pas forcément prêt et puis forcément il va pas se sentir apte. Non, je sais pas.
On s'en bat les noix au fait. C'est tout.
Un peu.
C'est vrai.
Je pense que moi
les roustons et d'une force.
Vous avez tous compris que le rap est Arthur.
Bah écoutez les gars, j'étais content de faire mon billet d'humeur, je vais rentrer chez moi, merci beaucoup.
Non, moi je les connais pas les gars. Donc...
Non, mais c'était important, important d'en parler.
Booba s'entraîne beaucoup plus en sport de combat et tout. Et,
bah, Booba, ça s'est vu à l'aéroport voilà. en tout cas.
Ça s'est vu à l'aéroport, 1 contre 8. Hein.
Même Erwan en CP se boit mieux que lui.
Erwan en CP.
Oui, j'avais un prénom en tête, c'était un ouais, petit Erwan en classe Marie Curie.
C'est quelle tristesse.
Ok, et eh bien maintenant c'est à mon tour et moi ça va être un petit peu plus posé tout ça. Je vais vous parler du musée Charnot de Paray-le-Monial. Est-ce que vous connaissez? Alors Paray-le-Monial, ça c'est en Bourgogne et tout. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que
oui, on aimerait bien savoir. Ouais.
Parce que ce musée fête ses 25 ans. Alors c'est pas anodin, c'est le musée du carrelage. C'est le musée du carrelage. Et du coup, à l'occasion de ses 25 ans.
J'étais sûr qu'il y avait une arnaque quelque part.
Ce ça musée, qui est la mémoire de l'industrie céramique de Paray-le-Monial, bien évidemment, il a organisé pendant l'été 2018. Alors, je ne sais pas, j'ai pas plus d'informations que ça, donc je ne sais pas si c'est encore le cas. Il a organisé une exposition de mosaïques utilisant le grès céram non lié. Mais alors, vous rigolez, mais cet événement, il était ouvert aux mosaïstes, bien sûr, hein, professionnels ou non, hein, parce qu'il y a des mosaïstes amateurs.
Donc, t'as été, toi
Bah, j'y suis allé, moi, directement.
Moi, j'en peux plus de cette émission.
Oui, mais dis-toi qu'il a drainé plus de 3000 visiteurs en 4 ans. Non, il a drainé plus de 3000 visiteurs qui ont été conquis par la variété et la qualité des 75 œuvres présentes. Voilà. Alors, actuellement, le musée est fermé. Voilà. Mais vous pouvez toujours demander des visites sur demande.
Non, t'inquiète.
Vous soyez 6 minimum. Et ce sera en fonction de la disponibilité des bénévoles de l'association.
Wow.
Voilà.
C'est assez dingue. Bah, merci. Bravo. Pour ce
merci.
Mais de rien.
Merci. Quel billet d'humeur. Ah bah, quel billet écoute, d'humeur.
Et là, ça nous donne le sourire quand même, ce billet d'humeur.
Ah bah, tout de suite, ça nous enjoie.
Et tout de suite, on va passer. Bon, peut-être un petit peu moins de qualité, on va voir, hein. je ne sais pas.
La barre était déjà très haute.
Oui, la barre, c'était incroyable. J'ai jamais fait une émission comme ça. Je suis en train de pleurer. On passe tout de suite à la chronique de Thomas.
C'est l'heure de Bohémien Rhapsody, les amis. Génial, ouais.
Vous vous l'avez deviné, Thomas aime les grandes dents et les moustaches. C'est à toi, Thomas.
Oui. Alors moi, qu'est-ce que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui ? La comédie musicale de l'année, à savoir High School Musical. Je suis désolé.
Allez, le troisième.
Oh là là.
Le
troisième. Et quel opus, mais quel opus.
Un succès. Zac
Efron. Les prequels.
Oh là là, Zac Efron dedans.
Zac Efron à la maternelle.
Fou. Magnifique. Non, bien sûr, vous l'avez compris, j'ai choisi de vous parler de mon coup de cœur de cette année 2018, à savoir Bohemian Rhapsody. Alors pourquoi j'ai choisi de vous en parler ? Parce que, déjà, parce que ce film, je pense, n'arrêtera jamais d'être au cinéma. Hein, le film est sorti le 31 octobre et il est toujours au cinéma. À l'heure où on enregistre, il est à plus de... On a passé les 12 ou 13 semaines au box-office, ce qui est vraiment une belle performance. Et surtout parce qu'il a été récompensé à la 76e cérémonie des Golden Globes du 6 janvier 2019, présentée d'ailleurs par un certain Andy Samberg, dont on a parlé à la dernière émission. Exactement. À savoir que pour deux nominations pour ce film, deux récompenses. Meilleur film dramatique, en battant évidemment A Star Is Born et Black Panther.
Bah bien sûr, bien sûr.
Bien sûr. Et meilleur acteur film dramatique pour Rami Malek. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce que je déplore, le film Bohemian Rhapsody est le film qui retrace le portrait du chanteur rock britannique Freddie Mercury et de son groupe Queen. Allant de 1970, à savoir de la formation de Queen, quand Freddie est encore barragiste et encore bagagiste.
Ah, il est encore barragiste.
Le mec, il est sur tous les barrages.
Il construit des petits murs et tout.
Pas clou, pas
le, gars, le gars, c'est un castor, ça explique les dents. On a perdu Arthur.
Et ceci allant jusqu'au live-aid du 13 juillet 1985. Ça passe donc par la formation du groupe, les premiers concerts, les premières tournées, la création du titre Bohemian Rhapsody, à savoir le plus gros succès du groupe, les soucis de Mercury, le succès, etc. On va commencer, je propose, par parler du casting de ce film. C'est un casting...
Envie,
allez, bon, bah, tant pis.
Allez.
Alors, la PlayStation 2, Arthur.
Petit 5.
Ah, vas-y, le casting.
Bon, le casting, alors volontairement, ça a été un... casting, plus petit casting, afin de bien faire ressortir le groupe. Alors bien sûr, c'est pas des stars, ça reste des stars relativement connues par leur série ou par d'autres œuvres précédentes, mais ce sont pas des stars qu'on peut qualifier d'interplanétaires qui pourraient voler l'affiche justement à
Brad Pitt, des trucs comme ça.
Exactement. Ça. Déjà parce qu'il a aucunement le physique.
Et aucune ressemblance en fait avec personne.
C'était ça où Samuel L. Jackson, ils ont dit bon bah tant pis. Dans le rôle principal, on a nul autre que Rami Malek. Rami Malek, que vous connaissez probablement pour sa série Mr. Robot, ou encore pour La Nuit au Musée.
Et quelle Nuit au Musée ?
Et oui, il était dans La Nuit au Musée.
The Pacific.
Et quelle série The Pacific ?
The Pacific, il joue dedans ?
Il joue dedans.
Et bah, on ira voir.
Mais il joue à la Marelle, du coup, il fait.
Et quelle Marelle ?
Ne critiquez jamais cette série. Allez,
tu reviendras nous voir quand tu sauras parler, merci.
Je suis bègue.
Et on a également Ben Hardy aussi qui joue le rôle du batteur qu'on a déjà pu apercevoir dans X-Men, dans le rôle de Angel.
On avait oublié. De Robbie Williams.
Dans l'ensemble, ce film a reçu un accueil relativement mitigé, notamment en raison de la prothèse dedans quand même. Il faut qu'on aborde cette question de la prothèse dedans. Alors que le reste est, je trouve, relativement bon physiquement dans le rôle de Rami Malek, mais la presse a littéralement détruit le film.
C'était une prothèse dedans, c'était pas un acteur à part entière.
Les dents n'étaient pas un acteur à part entière. C'est-à-dire que première, ils ont mis 2 étoiles, Le Parisien 1 étoile, donc ça n'a vraiment pas été un succès
et pourtant,
de presse.
Et pourtant, quand tu vois Freddie Mercury sur les vieilles photos, il avait quand même des... Ma voix est partie en couille tellement il avait des dents qui étaient...
Oui, c'est vrai que c'était peut-être un peu abusé, mais c'était le critère nécessaire pour...
Oui, bien sûr, bien sûr.
Pour ce rôle. Donc,
avoir des dents,
c'est tout.
Didier Deschamps, non, ça va pas être possible, je suis désolé.
Recalé.
Donc bien entendu, certains le savent, c'est le biopic officiel de Queen, c'est-à-dire que c'est produit par Queen, c'est Queen qui l'a fait, donc c'est signé Queen à 100%, donc aucun aspect négatif de la vie de Freddie est évoqué. Donc,
c'est eux qui ont fait la BO, je crois.
Je crois qu'ils ont fait la BO, mais à vérifier. Arthur, tu vérifieras. Donc pour le coup, étant donné que c'est le biopic officiel de Queen, il n'y a aucun aspect négatif de la vie de Freddie Mercury qui a été évoqué. Tous les moments vraiment très sombres ont été passés très brièvement. Mais ça reste malgré tout un film comédie relativement tout public, qui vire quelque peu au drame, mais qui est très accessible pour tout le monde. Qui vire très peu au drame.
Oui, non, mais c'est ça. C'est,
je vois Florent qui fait une petite moue. Alors
ouais, tu dis c'est une comédie, donc forcément, ça va pas être le truc dark... Donc oui, forcément, c'est pour ça que ça fait un peu l'impasse sur les problèmes de Freddie Mercury.
Bah c'est ça, c'est... ils ont fait en sorte que le film soit assez accessible justement, et donc c'est pour ça que l'entrée est pas très l'entrée en fait, c'est pas du tout le mot que mon que je voulais sortir, et
oui,
je sais pas pourquoi
c'est
le mot qui est sorti.
Je veux dire le plat principal.
Donc c'est pour ça qu'aucun aspect négatif n'ont été évoqués. Moi, ce qui m'inquiétait justement, c'était que ce soit un biopic très documentaire. C'est le risque des biopics, dont je suis très friand d'ailleurs, soit très documentaire. Voilà, il s'est passé ça jusqu'en 86 où il se passait ça. Là, pour le coup, c'est assez scénarisé, mais du coup, c'est plus plaisant à voir. C'est un film qui se déroule bien. Les BO sont très très bien placés. Et c'est donc les côtés positifs de ce film. Comme je le disais tout à l'heure, sorti le 31 octobre 2018, ça fait pas moins de 12-13 semaines que ce film est au cinéma, donc je pense qu'on l'aura jamais en DVD. C'est
oui,
pas possible.
Alors on l'enregistre en fait là.
Ou alors.
Ça fait 12-13 semaines, ça.
Ça fait 12-13 semaines exactement. Ah oui, ça commence à faire. Et alors, comme on l'a dit, bon, c'est des faux lives. Cette question avait été évoquée, que les lives soient refaits justement par l'acteur, histoire que la performance soit complète. Mais pour le coup, non. Ça, c'est un point que je trouve essentiel. Les vraies chansons étaient gardées, mais qu'est-ce qu'elles sont bien placées.
Oui, mais alors par contre, tu parlais du truc, ça se voit que c'est des faux lives.
Non, mais ça se voit, mais si tu veux, ils évoquaient de dire bon, bah l'acteur, t'es un vrai acteur, tu refais les chansons aussi par-dessus tout.
Ah oui, oui,
c'est bon, compliqué, la voix de Freddie Mercury, enfin, pour reprendre ça, je pense que Rami Malek, puis avec les dents, ça devait pas être facile la prothèse. Hein. Il ne fait pas pouvoir articuler beaucoup non plus.
Non, c'est pour ça que les chansons, moi, je les ai trouvées très bien placées malgré les faux lives. La prestation sur la scène du Live Aid.
Magnifique.
Est incroyable. Wow. C'est la scène de fin de ce film qui, ouais, je pense, résume toute la qualité de ce film.
Complètement.
Qui est impressionnante. Et donc, forcément, on connaît toutes les chansons, mais elles sont très bien placées. Elles sont très très bien placées. On s'enjaille forcément musicalement. Moi, pendant tout le film, on tape du pied. Je suis désolé. Ouf, ouais. D'ailleurs, qui a vu le film autour de cette table? Je me pose.
Tous.
Erwan.
On l'a tous vu.
Tout le monde l'a vu.
Oui. J'ai un avis bien tranché là-dessus même. Que je développerai
aiguisé comme un coutal.
Et enfin, moi, Rami Malek, je vous propose d'en parler maintenant. Rami Malek, moi, personnellement, il m'a convaincu dans le rôle de Freddie Mercury. C'est, je pense que c'est une belle performance. La preuve l'a montré par sa récompense au Golden Globe, peut-être aux Oscars prochainement. Moi, j'ai été convaincu.
Moi, je suis toujours un petit peu Florent. Mitigé sur ces récompenses et tout. Pour moi, ça veut pas dire grand-chose, parce que la plupart du temps, c'est des lobbies en fait qui font gagner tel ou tel film. On n'a jamais vu vraiment de trucs comme ça qui sortaient de nulle part sans soutien qui gagnaient vraiment. Pour moi, c'est du lobby. Bah, même si c'est mérité.
T'as des trucs un peu moins connus et tout. Je vais prendre The Shape of Water,
ouais.
La forme de l'eau. Bon, c'est Del Toro, Guillermo Del Toro.
C'est
il est connu, il a fait Pacific Rim 1, je crois. Ouais, c'est ça. Mais
belle réussite,
il a pas autant de soutien, il a pas. Voilà, je veux dire, le film n'était pas. Il n'était pas hyper, hyper ouvert au niveau du public. Il touchait un public qui aimait plus le bon cinéma, je pense en tout cas. Et...
Oui, mais après, voilà, généralement, tu vois, comme le truc des Oscars, ils envoient les DVD de tous les films au jury. Donc, t'as un jury, c'est pas.
Alors qu'une clé USB, ça serait tellement plus simple.
Des petits DivX, hein, sous la main, piratés comme ça. Le piratage, c'est mal. Non, mais voilà, je suis désolé, mais on est obligé.
Donc, voilà, donc c'est vrai que c'était assez contesté pour le coup, la performance de Rami Malek. Moi, il m'a convaincu. Majoritairement, je pense qu'aussi il vous a convaincu. Moi,
l'acteur est bon, mais la direction artistique est mauvaise. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je lâche le micro.
Boom. Ok. D'accord, très bien. Et pour finir, en point positif, et là je le dis, mais à corps d'évolui, absolument, voir le film en version originale.
En VO, bien sûr.
Je ne vois pas intérêt de le voir en français, notamment par le travail de voix de Rami Malek, qui est vraiment très, très appréciable. Et le voir en VO, c'est plus dans la logique de la continuité des paroles de la chanson. Donc, pour positif. Moi, j'ai été convaincu par ce film, donc je conseille de le regarder. Est-ce que vous en connaissez un peu plus sur le Live Aid, messieurs, de 1985?
Oui.
C'était un concert.
C'était un concert, pas
live.
N'importe quel concert.
Il y avait Annie Cordy.
Alors, elle était censée faire duo avec Colonel Rayel, mais malheureusement, c'était pas.
Mais malheureusement, pour des soucis de naissance de Colonel Rayel, ça a pas pu se faire.
Le hic, c'est. Non, attendez, les gars, c'est le plus gros concert qui ait jamais eu, suivi par 1,5 milliard de personnes.
Oui, mais.
Tu te rends compte?
On n'était pas nés.
Ah bah peut-être. Oui. Mais c'est quand même un dos. Ça a été diffusé dans plus de 100 pays différents. C'était dans deux pays en même temps, à savoir au Wembley, au stade Wembley à Londres et au John Fitzgerald Kennedy Stadium de Philadelphie. Et c'était des stars, que des stars internationales. Queen, U2, David Bowie, Dire Straits, Phil Collins. Alors Phil Collins.
Pourquoi tu rigoles? Parce que Phil Collins, ça m'a toujours fait rire, je sais pas.
Ah mais attends.
Non mais attends, Phil Collins, c'est un grand malade.
Faut savoir l'histoire de Phil Collins. Le gars, il a fait le concert à Wembley. Il a dit ok, je prends l'avion. Il a pris l'avion et il a fait la fin de son concert à Philadelphie.
Le mec s'est tapé 9 heures de vol pour.
Et après, on lui a dit que c'était filmé. Du coup, il avait un peu les boules, mais.
c'est fini, Phil. Ah merde.
il a fait les deux concerts. Et après, Elton John, Sting, Madonna, tout ça, etc. Donc c'était vraiment le concert. Le concert qui a d'ailleurs relancé un petit peu Queen à ce moment-là, parce qu'ils ont ensuite enchaîné par une tournée mondiale des stades. Donc ça a bien permis. Voilà. Est-ce que pour finir cette chronique, ça vous dit de faire des petites anecdotes à picorer?
Attends, parce que je vois qu'il y a Arthur qui lève la main. Arthur, tu veux donner ton avis sur le film avant qu'on fasse les anecdotes à picorer?
J'ai un avis assez tranché par rapport au film. Je le trouve tout simplement mauvais. Je l'ai revu, il est mauvais. C'est un mauvais biopic. Si tu veux voir le Live Aid, tu vas sur YouTube. Tu l'as en vrai. Et tu peux même l'avoir en haute définition. Et il n'y a pas d'effets spéciaux.
Voilà. Tac.
Voilà. Alors ce qui a motivé l'avis d'Arthur pour en avoir discuté un peu avec lui, c'est que là, tous les quatre, on l'a vu au cinéma. Mais
j'avais l'avis à chaud. Je sortais du cinéma, je l'avais encore le son, les grosses basses du cinéma. Je fais, waouh, ça jette. Mais avec du recul, on se dit, comment se déroule le film? Hop, Queen, Freddy se rencontrent, problématique, musique. Point. Histoire. Problème, musique. C'est que ça tout le film. On voit pas la suite de Freddie Mercury. Pour moi, ce qui était le plus important, c'est de savoir comment il allait gérer sa maladie.
Ouais,
ça
mais
aurait été génial.
C'est pas le film, il s'appelait pas Freddie Mercury.
Mais non,
le malade.
Bohemian Rhapsody.
Oui. Non, mais là, je suis d'accord. Mais
tu vois,
surtout, il y a énormément de mensonges.
Ah bah bien c'est sûr, c'est scénarisé.
Ah bah c'est scénarisé.
Non, mais intouchable. Hein.
Non, mais ça, je...
Tirer une histoire vraie. Non, mais.
Les Aristochats, tu crois que ça s'est vraiment passé?
Oui,
il existe. Mary Poppins, dis donc.
Enfin.
Voilà. Non, mais il y a plein de mensonges. Queen qui dit à Freddie Mercury, tu nous as quittés pour faire un album solo. Qui a été le dernier à quitter le groupe pour faire un album solo? Freddie Mercury. Voilà. Je veux bien qu'on loupe certains aspects du groupe, tout ça. Mais il y a plein de mensonges dans ce film. C'est ça qui est absolument terrible quand tu...
Je crois qu'il est vraiment révolté.
Calme-toi, Eric Zemmour, calme-toi.
Il est vraiment là pour dénoncer.
D'entendre ça, en fait, ça m'énerve parce que tu sens que c'est Brian May qui a fait...
Est-ce que tu veux balancer ton porc, peut-être?
Balance ton Queen. Non, mais voilà, en fait, ce qui m'énerve, c'est que Brian May a mis les mains dans le cambouis à moi et a fait ça à sa sauce.
J'ai eu très très peur.
Voilà, non, mais voilà, c'est ça qui m'énerve. Et en fait, la vie la plus intéressante de Queen, c'est comment ils ont vécu, en gros, avec la maladie de Freddie. Comment ils ont pu... Tu fais une partie de fin de film, comment il a donné son dernier souffle pour la chanson Show Must Go On. Tu termines là-dessus, mais c'est génial.
D'ailleurs sur le clip sur YouTube, il y a une image du clip, un micro-instant, où on voit Freddy sans maquillage, sans rien, juste une photo de lui comme ça.
Et ça fait peur.
Où il est, bah voilà, il est sida en mode...
Terminal.
Capoute, frère, bientôt. et ouais, non, franchement, ça... Enfin,
t'aurais plus d'accroche là, tu te dis putain, exactement. Ce film il parle de la fin de Freddie Mercury qui a été jusqu'au bout de
sa vie. Mais après, je trouve que ça a été un bon film quand même. Le film est hyper agréable. Personnellement, je suis un fan de Queen déjà depuis longtemps et donc on n'a pas dû me convaincre pour. Voilà.
Non, mais bien sûr, après,
mais le film était beau, le film était poétique, les musiques étaient bien inscrites. La place de la musique dans le film.
C'était attirant, je veux dire, un film de Queen avec. Tant d'années d'absence, il y a un moment.
J'ai versé une petite larme personnellement.
Non, mais puis après, comme disait Thomas aussi au début de la chronique, c'est plus un feel good movie qu'autre chose.
C'est
donc
ça.
Mettre, dire, il avait le SIDA. Vous avez vu le SIDA, les ravages que ça fait. Je pense que ça aurait pas fait le truc.
C'est Queen. On sait qu'il y a une dramaturgie derrière eux.
Mais bien sûr.
Tu peux pas faire une comédie familiale sur Queen. Dans ces cas, tu fais, sur Tragédie.
Bienvenue chez les Queen.
Voilà. Non, mais un film sur Tragédie, le biopic de Tragédie. Oui, là-bas, tu peux faire un putain de film. Voilà.
Ça n'ira le voir déjà.
Voilà. Mais sinon, un bon biopic,
la môme.
Bon, messieurs, après ces débats acharnés, êtes-vous prêts pour les anecdotes à picorer?
Nous le sommes.
Oui. Cui-cui.
Formidable.
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles.
C'était vraiment très intéressant.
Sachez que, première anecdote. Attends, non, pardon. Je vais m'inspirer d'Arthur, si vous permettez. Petit 1. Le projet de ce film a débuté en 2010. Ça fait 8 piges que les gars sont en train de travailler sur un film où déjà la musique était faite, l'histoire était faite. Je suis désolé.
Il n'y avait plus qu'à tourner, dire action.
C'est ça, il n'y avait plus qu'à prendre un petit caméscope et hop, c'était lancé. Le scénario était écrit, les musiques étaient faites.
Un petit iPhone, bon, et c'est bon, quoi, ça passe.
8 piges pour nous sortir un film, c'est quand même long.
Ça donc, comme la qualité du film.
Oh, la violence de cet homme.
Alors comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment produit par Queen, par le groupe et donc par le manager Jim Beach. Donc c'est vraiment biopic officiel, hein. C'est signé, hein. C'est vrai, d'où le nom d'ailleurs, et qui je crois se rapporte à un titre de Queen. On y reviendra plus tard. Et c'est également produit, c'est également produit par une star internationale. Est-ce que vous savez qui a également produit ce film?
Lady Gaga.
Elton John.
Absolument pas, c'est Robert De Niro qui a également... a également donné de la popoche pour ah, pouvoir pour pouvoir
ça,
produire
le début quand il se regarde dans le miroir qui fait fucking to me my wife.
Ouais, c'est ça. Cool. Je crois que Florence s'est rendu compte que sa vibe n'avait pas de fin en fait.
J'avais pas de chute et je me suis dit ah, ok, enchaîné. Allez, enchaîne, hop, enchaîne.
Et une des raisons, nouvelle anecdote, une des raisons pour laquelle ce film a mis autant de temps à sortir, c'est le casting de Freddie Mercury. Je pense que là, on n'a jamais eu autant de gars sur le dos de Freddie Mercury. Le premier à supplier, à avoir supplié la prod pendant très longtemps, depuis 2004-2005, et qui avait le rôle d'ailleurs acté depuis 2010 jusqu'à 2013, c'est un gars qui adore se balader dans un slip vert assez moulant, c'est un certain Sacha Baron Cohen.
Je pensais que tu parlais de moi, parce que moi aussi j'aime bien me balader dans un slip vert assez moulant.
Ah, autant pour moi. Alors non, ce n'est pas Florent, du coup c'est Sacha Baron Cohen qui voulait absolument faire le film. Mais bon, il est parti pour divergence artistique. Le gars voulait vraiment faire...
tu m'étonnes.
Ce qu'aurait plu Arthur, pour le coup.
Il voulait faire Borat 2.
Il voulait vraiment être dans le hard de Freddie Mercury. Genre que le côté alcool,
et ça,
sexe...
Je vais le voir tout de suite au cinéma. Dans sa vie, quoi. Dans la vie de Freddie Mercury, quoi.
C'est
en fait,
ça.
C'est ma vie, quoi.
Mais pour autant, ça, moi, à mon avis, ça aurait jamais fait autant d'entrée qu'un film autant accessible, aussi accessible pour tout le monde.
Et qui reste très bien, malgré le fait qu'il ait été axé grand public.
Autre possibilité d'acteur qui avait été évoquée, mais même le gars a dit non mais arrêtez, c'est pas possible, je vais pas faire ça. Daniel Radcliffe avait été évoqué. Oh. Avait été évoqué.
La prothèse dentaire, mon gars, avec la cicatrice en plein milieu.
Et là t'as Brian May qui arrive, tu es un sorcier, Harry.
D'ailleurs Radcliffe, même le gars a dit non mais arrêtez, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Et autre personne qui avait été présentée également, c'est un certain Ben Whishaw. Connu pour ses rôles de Q dans les derniers James Bond.
Ah oui, ok.
Qui avait été pressenti également pour le faire, mais bon, c'est finalement Rami Malek, l'acteur égyptien, qui décrocha le rôle. Autre anecdote, donc au départ sur le projet de Sacha Baron Cohen, le film devait porter non pas sur la construction de Queen, mais sur la reconstruction du groupe après le Live Aid, autrement dit, dès que la maladie de Freddie était annoncée.
Ah.
Et ce leur qui... CAP, BTP.
Ce qui pourrait justifier d'ailleurs la préparation.
Reconstruction, BTP, le petit hop, charpentier.
Généralement, quand t'expliques une vanne, c'est qu'elle est pas bonne. Voilà.
Ce qui. Alors, on va d'ailleurs en parler, puisque moi, ça m'inquiète énormément. C'est la suite qui a été annoncée en préparation par Queen. La suite du film. Alors, moi, ça m'inquiète énormément. Après un succès pareil, faire un film. Tellement ça, refaire un film tellement ça a marché.
Mais c'est qui veut de la thune, Brian May, c'est tout.
Ah bah moi je le vois que comme ça. Refaire.
C'est qui le studio derrière le film déjà? Je me rappelle plus.
C'est la Fox.
C'est la Fox. Ah oui, c'est la Fox, oui, exact. Oui, très bonne reprise d'ailleurs.
Bon, je vais pas vous le faire en entier, mais je le connais par cœur. Donc voilà, il y a une suite qui est évoquée. Autre scandale aussi qui a été évoqué, c'est le réalisateur. Vous avez entendu parler ou pas du réalisateur?
Balance ton porc, c'est le moment, balance ton porc.
Réalisateur qui a été remercié avant même que le tournage soit fini, donc à savoir un certain Bryan Singer qui a réalisé pas loin de 5 X-Men, Wolverine, un gros film également, Usual Suspect. En tout, il y a eu 3 réalisateurs sur ce film. Et le gars n'a même pas été cité l'autre jour au Golden Globes, tellement il a été dégagé définitivement du projet.
Oui, mais pour autant, il apparaît quand même dans le générique du film. Moi, c'est le premier truc que j'ai vu, bah oui, je le savais pas au début, et quand j'ai vu, j'ai fait Bryan Singer, je fais « Ah, il existe encore ce mec-là !»
Il a quand même filmé pas loin de 80% du film, donc
Oui, mais même quand il se passe un truc comme ça. Ah, c'est contractuellement, tu penses que c'est.
Oui, c'est la loi, t'es obligé aux États-Unis.
Ok, excusez-moi, messieurs du Code civil.
Pardon. Lesjuristes.com.
Ok, j'ai pas fait du droit, moi.
Enfin, le film est sorti donc seulement en 2018, après 8 ans de travail. En une semaine, rien qu'aux États-Unis, le film était remboursé. Donc, succès commercial de fou. Le film a coûté 52 millions de dollars.
Après, tu te demandes pourquoi ils veulent faire une suite.
Il a coûté. Écoute ça, Florent, tu vas tomber de haut. Le film a coûté 52 millions de dollars. Aujourd'hui, il a rapporté déjà plus de 743
milliards.
Millions de dollars. Donc, on a je ne sais combien duplé le remboursement du film.
On est parti pour 5 films comme Les Animaux Fantastiques.
Juste une petite question comme ça. Moi qui ne m'y connais pas en production cinématographique. Est-ce que ça fait beaucoup 52 milliards de...
C'est énorme.
52 millions. C'est énorme, oui et non, c'est le prix d'un blockbuster.
Le prix de production
52,
d'un film,
52 millions, c'est pas hyper excessif.
C'est presque non, un film d'auteur à ce prix.
Ouais, ouais, franchement ah ouais, ouais, non, c'est pas excessif. Après, ce que ça a rapporté, par contre, là...
Sans compter les ventes d'albums, qui bien sûr ont triplé pour les best-of de Queen, là-bas, ça, c'est parti comme des petits pains. Mais bon, ça, on va pas en parler. Et enfin, pour finir, le film a donc, est donc devenu le biopic musical le plus lucratif de tous les films, en ayant franchi la barre des 600 millions de dollars au box-office. Voilà, messieurs, c'est tout pour moi, merci.
Oh là là, c'était magnifique, c'était magnifique. Même si le film s'est fait démonter après. On n'a pas tout à fait terminé cette émission, on va pas vous lâcher comme ça. On va faire comme d'habitude, on va faire un petit jeu.
Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec Dédé.
Et pourquoi j'irais gratter Dédé, pourquoi?
Mais pour le suspense. 100 000 francs gagnés, tête de cochon.
Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où, Dédé? Dédé. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble.
Alors, ce jeu, c'est un vrai ou faux? Tout à l'heure, je vous ai parlé du musée du carrelage. Je me suis dit, tiens, je vais faire un vrai ou faux musée. Donc, en gros, je vais vous
existe
donner...
Existe ou existe pas?
Oui, c'est ça. C'est est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il n'existe pas? Je vais vous donner le nom du musée. Et après, je vous fais une petite description rapide du musée. Alors, je vous avoue, je me suis un peu amusé sur les descriptions. Donc, c'est pas des activités dans les musées qui existent ou des trucs comme ça. C'est pour déconner, c'est... Voilà. On va commencer tout de suite par le musée du cheveu.
Ça existe,
alors,
c'est
mais
vrai.
Attends, mais attends, deux secondes.
La mer Noire.
C'est un musée qui est situé en Turquie et d'après ce que j'ai entendu, c'est le musée préféré de Jean-Louis David et de Jacques de Sange. Après, la légende dit que les femmes, oui, parce que ce sont que des cheveux de femmes dans ce musée, ressortent toutes chauves. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?
C'est vrai.
C'est vrai.
Est-ce que c'est un vrai musée? C'est un faux musée, Erwan, vas-y.
Moi, je pense que c'est faux. Moi, je pense que c'est faux, très honnêtement, c'est faux.
Eh bien, c'est un vrai musée. Et est-ce que je vous ai dit sur les femmes, c'est vrai, il n'y a que des cheveux de femmes là-bas?
Mais elles ne sortent pas chauves.
Non, mais non.
Mais ok, c'est pour ça que moi, je m'inquiétais.
Elles rentrent et à chaque fois, on leur met un coup de ciseau.
Un petit coup de scalp, là. Hop.
Alors, le deuxième musée, c'est un musée Gérard Depardieu. On y retrace bien évidemment la carrière de cet immense acteur. La particularité de ce musée de Châteauroux, parce qu'il vient de Châteauroux bien évidemment, c'est qu'il est accolé à un VNB. Parmi les activités proposées, on y retrouve une route du Rhum un petit peu particulière et une cave où les bouteilles sont déjà à moitié vides. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors bien évidemment, le truc de la route du Rhum, tout ça, ça n'existe pas. Je l'ai inventé pour les besoins de l'émission.
C'est vrai.
Moi, je pense qu'il y a un musée Gérard Depardieu.
La carrière est tellement énorme, pour moi, c'est vrai.
Moi, je pense que c'est faux.
Eh bien, ça fait un point pour Erwan. C'est faux, il n'existe pas. Il n'est que au musée Grévin. Parce que, je vous jure, j'ai tapé sur Google musée Gérard Depardieu, ça m'a sorti que les trucs du musée Grévin.
Et il prend une pièce entière. Hein.
Merci, Erwan.
Ce soir, je suis fort, je suis wow, efficace sur les blagues. Effectivement.
Le musée des toilettes. Alors, ce musée, il se trouve en Inde, et du coup, en même temps, si vous chopez la tourista, c'est hyper pratique de le visiter, ce musée. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux?
Alors, petite rectification, ce n'est pas un musée, mais un parc. Et ça existe, bel et bien.
Et oui, c'est ce que j'allais dire, ouais, je l'ai vu sur Internet.
Et donc, oui, ce parc existe.
Eh bien, oui, ça existe. Voilà. Le musée du mouchoir. Ce musée est situé à Brive-la-Gaillarde. C'est un musée qui est l'endroit rêvé pour tous les enrhumés. Bon, du coup, c'est aussi le musée de la maladie parce que la plupart des mouchoirs sont déjà utilisés.
C'est faux.
C'est vrai.
Bon, en même temps, ils ont tellement que ça à faire à Brive-la-Gaillarde, les pauvres, que... que peut-être
c'est
que...
tellement... c'est tellement moche ce que tu dis sur la Corrèze. Mais c'est vrai.
Ah, c'était vrai ?
Il existe ?
Non, c'est faux, il n'existe pas.
Ah, bon, bah,
il
n'existe pas.
Non, c'est vrai pour la Corrèze. Enfin... non, non, il n'existe pas. J'ai juste trouvé un truc sur les mouchoirs en soie Cholet, un truc comme ça. Voilà.
Ah, mais sur le mouchoir, non, mais c'est, moi, non, c'est celui-là auquel je pensais, moi. Non, excusez-moi.
Le musée des armoires. C'est un musée qui est aussi appelé le musée du cache-cache. On raconte que la personne qui est restée cachée le plus longtemps y est restée 3 jours quand même. Enfin, en même temps, avec plus de 2000 armoires pour se cacher, c'est facile. C'est un long. Musée qui est situé à Détroit.
Oh, c'est des ricains.
Est-ce que c'est généralement, le musée des armoires, j'appelle ça Ikea, moi, mais.
J'en ai aucune idée.
Moi, je vais dire oui. Moi, je vais dire vrai.
Thomas.
Fro.
Eh bien, c'est faux, il n'existe pas. Oh. Je fais une petite pause dans mon jeu juste pour vous dire un des trucs que je n'ai pas mis dedans. C'est le musée des serviettes hygiéniques. Je ne pensais pas qu'il existait et en fait, c'est un mec.
La mec.
C'est un mec qui était juste chez lui comme ça. Et il y a des personnes, alors déjà il y a des personnes qui se sont dit tiens on va aller le visiter ce musée, ça a l'air d'être sympa. Et en fait ils se sont retrouvés devant le pavillon d'un gars et le gars a dit non non si c'est dans ma cave. Le gars est célibataire, il a 50 ans et il s'intéresse aux serviettes hygiéniques. Donc t'as des trucs de coupe menstruelle, machin, tout ça. De quoi faire flipper.
Yes.
C'est aux États-Unis.
Ah, forcément, il y en a un qui demande l'adresse autour dans de la table, c'est il faut que ça soit Arthur.
Forcément. Non parce que moi ça m'intéresse, les coupes menstruelles, tout ça.
Je suis gynéco à mes heures perdues.
Et ça marche.
Le gynéco personnalisé de Bruce Willis.
Exactement.
Les moches, je les mets où je veux, c'est souvent dans la.
Ok.
Oh, oh non.
Tout de suite.
Quand même.
Florent, voyons.
Alors, le musée de l'art mauvais. C'est un musée qui est situé à Boston. Il regroupe des formes d'art si particulières qu'on pourrait les qualifier de mauvaises, tout simplement. Il regroupe plus de 500 œuvres jugées comme mauvaises. Ouais, regroupe, j'ai fait un mélange avec croûte aussi parce que c'est des croûtes. Et d'ailleurs, si j'en parle, c'est parce que je vais exposer là-bas et du coup, vous êtes tous invités à la... au début ou machin, je sais plus comment ça s'appelle.
Bah, et donc,
exposer toi-même en fait, c'est un peu le. Ok, on pourra couper ça au montage.
Pas du tout. On coupera rien, Erwan. Donc, est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il n'existe pas ?
Faux.
Faux. Eh bien, il existe, ce musée.
Allez !
C'est un musée, j'ai regardé certaines photos, j'ai fait « Oh mon Dieu, que c'est moche !» Un autre musée pour les amateurs de bouffe, maintenant, le musée des nouilles instantanées. Alors, bien évidemment, c'est un musée à éviter si vous avez la dalle. Après, ça implique qu'il faut y aller quand même avec un bol, une bouilloire et une grosse réserve d'eau. Après, aux dernières nouvelles, ils auraient même envisagé d'enlever les prises électriques, histoire que personne puisse faire bouillir l'eau. Et du coup... il se trouve au Japon, ce musée. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux?
C'est vrai.
C'est vrai.
C'est faux?
Eh bien non, c'est vrai. C'est vrai, yes. C'est vrai. On passe tout de suite à un musée un petit peu particulier, encore une fois. C'est le musée de la tondeuse à gazon. Alors, c'est un musée qu'on appelle aussi Jardiland, de ce que j'ai cru entendre. Et ce musée, il se trouve au Royaume-Uni et regroupe toutes les tondeuses de 1830 à nos jours.
Ah, donc les volants sont à gauche, alors.
Peut-être, je ne sais pas.
Et c'est faux.
C'est vrai.
Arthur ?
Ah, c'est vrai. Ah bah, c'est le pays du gazon, le Royaume-Uni. Donc,
c'est le pays du gazon. Le truc est connu pour tout mais sauf le gazon.
C'est écrit quand t'arrives en Angleterre. Il y a écrit « Bienvenue en Angleterre, pays du gazon ». C'est écrit.
Welcome to the Gazon Land.
C'est ça. Je crois. Il n'y a même pas écrit « Bienvenue en Angleterre ». Welcome to Gazon.
Herbiland.
Non, pour moi, c'est vrai.
Eh bien, c'est vrai. Il existe. Et ça va jusqu'à la dernière tondeuse à l'énergie solaire, je crois, un truc comme ça. Donc... on est plutôt pas mal au niveau de la tondeuse là-bas.
Tondeuse autonome.
Ouais. On en a deux encore. Le musée du fil barbelé. Et, bah, c'est un musée. Non, c'est un musée américain qui regroupe pas moins de 2400 variétés de fil barbelé. On raconte que c'est le musée préféré de Donald Trump. Je sais pas pourquoi, pas bizarre. Il y aurait même une aire de jeu pour les enfants où en fait, faut. C'est, alors, c'est, je te jure, c'est génial. Faut passer dans un tunnel de barbelé et en ressortir vivant. C'est l'éclate.
Non, c'est
est-ce que c'est vrai,
c'est
est-ce que c'est faux?
C'est faux.
C'est faux. C'est faux.
Eh bien, c'est vrai, ce musée existe et il est vraiment américain. America. Et maintenant, fuck yeah! Et maintenant, le dernier musée, c'est le musée Cyril Hanouna. Alors, musée Cyril Hanouna, salut mes petites beautés, vas-y, tire sur mon doigt, tu verras mon cul. C'est génial, il est trop con, j'adore. Un musée où on fait de la darka de fou, y a pas de race rare, mon frérot. Allez, on met des nouilles dans son slip, on se touche les boules et on vient dans mon musée de la darka.
Tout le monde est d'accord que c'est Patrick Sébastien qui imite Cyril Hanouna, qui est imité lui-même par Florent. C'est une mise en abîme que moi j'arrive pas à comprendre.
C'est Cyril Hanouna qui imite Florent, qui imite Patrick Sébastien, qui imite Cyril Hanouna. C'est... Wow.
C'est complexe.
Et du coup, est-ce qu'il existe ou pas?
Non, bien sûr que non.
C'est vrai. Faux.
C'est faux.
Oh oui, pour les coups, bien sûr.
Il n'existe pas. Et c'est sur ce musée Cyril Hanouna, très très bien imité en Patrick Sébastien, que nous allons nous quitter. On vous remercie pour votre fidélité parce que vous nous écoutez, bien évidemment. Et on se dit à dans deux semaines.
Bah, dans
les gars.
Deux semaines.
On se revoit dans deux semaines.
Faute, on sera là.
Et oui, c'était Culture Ims. On se donne rendez-vous dans deux semaines. Et d'ici là, culturez-vous. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Corneille poussive, oh non, et vous, c'est les loups maigres, par ces bises aigres, quoi donc vous arrive?
Non, bah d'accord, donc je
dans l'interminable ennui de la plaine, la neige incertaine.
Erwan, on a dit non.
Donc, c'est fini.
Non, oui, non, mais on s'en fout, c'est nul, arrête à un moment.
Bah. Pff, putain. Ok, je fais des stories.